Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Nous comparions dans notre dernier entretien, chers frères et sœurs qui nous écoutaient sur Radio Présence, chers amis, nous faisions donc une comparaison entre David, privilégié de Dieu, mais bien-aimé de Dieu, et Pierre, choisi par Jésus pour être le prince des apôtres, et une comparaison entre eux, puisqu'ils sont à la fois l'objet d'une prédilection de Dieu, manifestement, mais en même temps, tous les deux ont été de grands pécheurs. L'adultère de David et l'homicide par rapport à Uri, le mari de Bethsabée. Et en ce qui concerne Pierre, évidemment, sa faiblesse apparaît plusieurs fois dans les évangiles, qui n'est pas cachée par les évangiles, et son triple reniement, ce qui n'est quand même pas rien. Mais David et Pierre se ressemblent aussi dans leur spontanéité, dans leur droiture, et comme dans leur faiblesse, mais surtout dans leur attachement à Dieu et au Christ. Avant de raconter avec délicatesse la faute grave de David, ce que nous allons faire, nous-mêmes, le narrateur du second livre de Samuel relève plusieurs traits de la bonté foncière de David. Le roi David est un guerrier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu dit à David que c'est plutôt son fils Salomon, qui va dans le Pacifique, qui lui construira un temple, le temple de la paix. Et c'est un guerrier donc, et sa première apparition dans l'histoire est son cri de foi en face du géant Goliath, moi ça me marque toujours. Qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? Un acte de foi donc. Et après avoir connu le dessein qu'a Dieu de lui assurer un lignage, une dynastie, une maison, après l'en avoir remercié et l'avoir prié de le mener à bien, David continue ses expéditions contre ses ennemis préférés, si j'ose dire, et le texte de 2 Samuel chapitre 8 commence ainsi. Il advint après cela que David battit les Philistins et les abaissa. Ce n'est pas nouveau. Il n'en guerroie pas moins contre les Moabites, les Anaméens, les Araméens et les Édomites. Et deux fois dans ce petit chapitre 8e du deuxième livre de Samuel revient le refrain joyeux. Partout où David allait, le Seigneur lui donna la victoire. Et le chapitre suivant, le chapitre 9 donc, le chapitre suivant donne la mesure de la fidélité de David à son ami défunt Jonathan, on en a parlé longuement, mort avec son père Saül sur le mont Gelboé. D'emblée, Jonathan s'était attaché à David et lui avait proposé un pacte d'amitié. Il lui avait dit « Si je meurs, ne retire jamais ta bonté à ma maison. » Il y a encore la maison ici. « Quand le Seigneur supprimera de la face de la terre les ennemis de David, que le nom de Jonathan ne soit pas supprimé avec les maisons de Saül, sinon le Seigneur en demandera compte à David. » Et Jonathan prêta de nouveau serment à David parce qu'il l'aimait de toute son âme. Ça, c'est le premier livre de Samuel au chapitre 20. Le Seigneur, donc, a donné à David la victoire sur ses ennemis et celui-ci se souvient de sa promesse à Jonathan. David demanda, « Est-ce qu'il y a encore un survivant de la famille de Saül pour que je le traite avec bonté par égard pour Jonathan ?» On fait venir un serviteur de la famille, sorte d'intendant de la maison, Siba, à qui David réitère sa question, « Ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül pour qui je le traite avec une bonté comme celle de Dieu ?» Oh, une magnifique formule, c'est dans le texte. Une bonté comme celle de Dieu. Le texte est d'une grande délicatesse. Il ne faut pas comprendre que David veuille s'égaler à Dieu. Il veut simplement se faire le disciple de la tendresse sans repentance de son Seigneur et de sa miséricorde, dont il découvrira bientôt toute la portée après sa double faute. Nous nous souvenons d'ailleurs de la parole du Seigneur dans l'Évangile à celui qu'il appelait « bon maître ». Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Ce qui prend un singulier relief dans sa bouche. Nous qui sommes mauvais de notre propre fond, ne pouvons être bons qu'en puisant cette bonté en Dieu. C'est ainsi qu'il nous faut, à l'imitation de David, traiter les autres avec une bonté comme celle de Dieu, c'est-à-dire avec un amour sans limite et sans retour sur soi. Tout ce qui est bon, qui est vrai, qui est juste, etc., ce tout vient de Dieu. Et ça doit revenir aussi à Dieu. La magnanimité de David apparaît d'autant plus que l'objet de sa bonté est un handicapé, une personne handicapée. « Oui, répond le serviteur, il y a un fils de Jonathan qui est perclus des deux pieds. » Antérieurement, le chroniqueur avait expliqué la cause de cette infirmité. Il y avait un fils de Jonathan, fils de Saül, qui était perclus des deux pieds. Il avait 5 ans lorsqu'arriva de Yisraël la nouvelle concernant Saül et Jonathan, c'est-à-dire de leur mort et de la défaite du peuple d'Israël. Sa nourrice l'emporta et s'enfuit, mais dans la précipitation de la fuite, l'enfant tomba et s'estropia. Il s'appelait Méribaal. C'est cet estropié que David envoie chercher par fidélité à son ami. Oui, une préoccupation pour les personnes handicapées ne date pas d'aujourd'hui. Elle se trouve dans les Saintes Écritures et de la part de David. Il arrive, cette personne handicapée arrive et se prosterne. David lui dit « N'aie pas peur, car je veux te traiter avec bonté par égard pour ton père Jonathan. Je te restituerai toutes les terres de Saül, ton aïeul, et tu mangeras toujours à ma table. » Méribaal se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu fasses grâce à un chien crevé tel que moi ?» C'était l'expression tout à fait concrète de ce temps. Et cette dernière expression ne doit pas trop nous étonner, car David lui-même avait crié à son grand-père Saül et qu'il avait épargné au moment où il le pourchassait. Après quoi, le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Après qui cours-tu? Après un chien crevé? Après une simple puce? Méribaal est en fait estropié, mais David ne se détourne pas de lui, il confirme au contraire et détaille les privilèges qu'il lui octroie. Le roi appela Siba, le serviteur de Saül, et lui dit « Tout ce qui appartient à Saül et à sa famille, je le donne au fils de ton maître. »